il y a une division profonde qui sépare l'humanité en deux, et ce n'est pas entre les hommes et les femmes, ce n'est pas entre les droitiers et les gauchers, mais c'est entre les croyants et les non-croyants. Pour le dire autrement, l'humanité aujourd'hui est fondamentalement divisée en deux groupes, et il n'y a pas de division plus radicale que celle-là. D'une part, le peuple de Dieu, d'autre part, le peuple qui n'est pas de Dieu. Et cette affirmation peut peut-être vous paraître un peu choquante cet après-midi. Peut-être en effet que vous êtes un croyant et que vous vous entendez très bien avec des non-croyants ou peut-être avec des gens d'une autre religion et vous ne voyez pas pourquoi on devrait parler de division, en tout cas pas de division aussi radicale entre les deux. Ou bien peut-être que cet après-midi, ou quelqu'un qui écoute sur Internet, peut-être que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un non-croyant et vous vous dites que cette affirmation en fait est à côté de la plaque, elle vous semble peut-être prétentieuse, voire même hypocrite. Pourquoi? Parce que quand vous observez autour de vous les gens qui se disent croyants, bon nombre d'entre eux, vous le constatez, ont une vie bien plus dissolue que la vôtre en tant que non-croyants. Tandis que bon nombre de non-croyants que vous connaissez sont pour vous des exemples de gentillesse, de droiture morale, de maturité. Alors vous savez quoi, que vous soyez croyant ou non, ce genre d'observation est tout à fait juste et la Bible est tout aussi réaliste que vous sur le fait que la distinction entre croyant et non-croyant, ou la distinction entre le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas de Dieu, n'est pas évidente à observer dans notre expérience quotidienne. C'est vrai, et la Bible le dit elle-même. Néanmoins, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette division fondamentale, elle est quand même une réalité. Elle existe bel et bien parce que cette division fondamentale vient de Dieu. Ce n'est pas une division qui répond à des critères subjectifs, c'est-à-dire qui dépendrait de ce que je dis ou de ce que je fais, mais c'est une division qui répond à des critères objectifs, c'est-à-dire qui dépend de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Autrement dit, ce n'est pas la façon dont les hommes se comportent qui détermine cette division dans l'humanité. C'est la division que Dieu a instituée dans l'humanité qui doit déterminer la façon dont les hommes se comportent. Vous avez suivi? Je répète. Ce n'est pas la façon dont les hommes se comportent qui détermine cette division dans l'humanité, mais c'est la division que Dieu a instituée dans l'humanité qui doit déterminer la façon dont les hommes se comportent. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair, bien sûr, à travers le texte qu'on est sur le point de lire, mais il y a une idée principale que j'aimerais que nous retenions, parce que je crois que c'est la leçon générale de ce passage. Et cette idée, la voici. Dieu s'est fait un peuple à part, constitué d'hommes, de femmes et d'enfants qui doivent se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux et qui doivent vivre en conséquence. Dieu s'est fait un peuple à part, constitué d'hommes, de femmes et d'enfants qui doivent se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux et vivre en conséquence. Alors la dernière fois, on a vu le récit de la dernière plaie d'Égypte, la dixième et dernière plaie d'Égypte, vous savez, le récit de la mort des premiers-nés, aussi bien humains qu'animaux, en Égypte, et la façon dont cette ultime catastrophe provoque de manière irrésistible le départ des Israélites. Et on a vu la façon dont Moïse avait intégré dans son récit des instructions qui concernent la commémoration de cet événement, et notamment qui serait commémoré au fil des générations par le moyen d'une fête annuelle, la fête de la Pâque chez les Juifs. Et maintenant, c'est un peu comme une annexe à ce récit de la dernière plaie d'Égypte et de la sortie des Israélites. C'est comme une annexe que Moïse ajoute, où il va donner quelques autres précisions, quelques instructions supplémentaires concernant la future commémoration de cet événement magistral, qui est la sortie d'Égypte, la délivrance du peuple depuis l'Égypte. D'accord? Alors on va lire ce récit, ce texte. Encore une fois, vous allez voir que plutôt qu'un récit, il s'agit vraiment d'instructions que Moïse veut communiquer au peuple d'Israël concernant la commémoration de la sortie d'Égypte. Chapitre 12 de l'Exode, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la célébrer et il sera comme l'autochtone. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. Tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes organisées. L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra pas chez toi de pain levé, et on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Tu feras en ce jour un récit à ton fils, en disant « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te prions de nous instruire maintenant, de nous éclairer, de nous enseigner tes voies. Par ton esprit, Seigneur, sanctifie la prédication de ta parole, rends-la fructueuse, fais-la prendre racine dans notre cœur, pour que nous en soyons transformés. Amen. Alors je vous disais que ce texte était rempli d'instructions. La première chose qu'on découvre dans ce texte, en effet, ce sont des instructions qui concernent la Pâque. Versets 43 à 51, à la fin du chapitre 12. On sait déjà que la Pâque, la fête de la Pâque, qui consiste à sacrifier un agneau et à le manger en famille dans une maison, on sait déjà que la fête de la Pâque est censée commémorer la sortie d'Égypte. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous renvoie à ma dernière prédication qui est en ligne sur le site internet. Mais maintenant, on est en train de découvrir quelque chose de plus concernant la Pâque, et notamment que c'est une fête qui est particulièrement sacrée et qui est exclusivement réservée aux personnes qui ont été circoncises. Et nous savons, parce que bien sûr nous avons tous lu le livre de la Genèse qui précède le livre de l'Exode, nous savons que la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham ainsi que les descendants d'Abraham. Une alliance en vertu de laquelle Dieu avait promis d'être le Dieu d'Abraham et celui de ses descendants après lui. Et lui donne un signe qui accompagne cette alliance, cette promesse. Et ce signe, c'est celui de la circoncision. Cela, vous le découvrez au chapitre 17 du livre de la Genèse, versets 7 et 11 en particulier. Donc, ce que le texte est en train de nous dire ici, c'est que la Pâque est une fête destinée seulement aux gens qui font partie de cette alliance avec Dieu. À savoir, les gens qui sont donc les destinataires de la promesse de Dieu. Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Les gens qui sont destinataires de cette promesse, soit parce qu'ils sont nés dans le peuple de Dieu, soit parce qu'ils font une démarche délibérée de se joindre au peuple de Dieu. Vous voyez, donc on pouvait être circoncis enfant au huitième jour, on pouvait être circoncis adulte si on venait d'un peuple voisin et qu'on avait envie de se joindre au peuple d'Israël. Et le texte le prévoit ce scénario. La Pâque est donc donnée comme un signe perpétuel qui est commémoré d'année en année, c'est une fête annuelle, le signe perpétuel d'une espèce de discrimination entre les hommes, entre ceux qui sont les destinataires des promesses de Dieu et les autres. Alors, pour essayer d'illustrer ce point, de nos jours, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés et que vous souhaitez recevoir l'allocation de rentrée scolaire, vous devez présenter une attestation de scolarité. Et en versant l'allocation de rentrée scolaire, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, opère une espèce de discrimination entre les gens qui sont les destinataires légitimes de cette allocation, n'est-ce pas ? Et les autres, à savoir entre les familles qui ont des enfants en âge d'être scolarisés et qui peuvent présenter l'attestation de scolarité, et les autres. Dans l'Ancien Testament, la circoncision est un peu comme cette attestation. C'est un peu comme une signature de la part de Dieu sur sa promesse. C'est un peu comme un certificat que Dieu remet à tous ceux qui sont les destinataires de sa promesse. Un certificat qui montre que ces gens sont comptés parmi son peuple. C'est pour ça que le Nouveau Testament parle de la circoncision comme d'un signe et d'un sceau. Un sceau, ça veut dire une signature. Vous voyez ? Une attestation de la part de Dieu. Et ce sont ces gens seulement qui peuvent légitimement célébrer la Pâque, parce qu'ils ont l'attestation de la part de Dieu. Donc vous voyez que Dieu distingue son peuple par des signes objectifs, qui sont dans l'Ancien Testament la circoncision, que l'on reçoit une fois, et la Pâque, qui est un signe perpétuel, répété d'année en année. Alors quand on lit l'ensemble de la Bible, on voit qu'il y a une corrélation entre les signes de l'Ancien Testament, qui sont la circoncision et la Pâque, et ceux du Nouveau Testament, qui sont le baptême et la Sainte Cène. Et je me permets de faire une précision ici. J'ai dit que c'était des signes objectifs. Ces signes ont une validité objective, mais ils n'ont pas de pouvoir salvifique. Ça veut dire que ces signes en eux-mêmes ne peuvent pas réaliser le salut. Mais ils ont quand même une validité objective parce qu'ils proviennent de Dieu. Autrement dit, ces signes témoignent objectivement de ce que Dieu promet et à qui il le promet. Par la circoncision, ça témoigne objectivement de la promesse de Dieu d'être le Dieu d'Abraham et de ses descendants après lui. Et ça témoigne aussi des gens qui sont les destinataires de cette promesse, c'est-à-dire ceux qui portent le signe de la circoncision, qui l'ont reçu. Donc ces signes témoignent objectivement de ce que Dieu promet et à qui il le promet, mais ce que Dieu promet, on ne le reçoit que par le moyen de la foi. Vous voyez ? Ça témoigne de ce que Dieu promet et à qui il le promet, mais ça ne fait pas recevoir ce que Dieu promet. On reçoit ce que Dieu promet uniquement par le moyen de la foi. Et c'est pour cette raison que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, bien qu'il était globalement circoncis, tout le monde était circoncis, mais constamment les prophètes appellent le peuple à répondre à la promesse de Dieu par la foi, une foi qui se traduit par des actes. Alors je vais y revenir à cette idée, mais pour l'heure je voudrais juste tirer une application de ce premier point par rapport à la Sainte Cène. Vous voyez, la Sainte Cène, un peu comme la Pâque dans l'Ancien Testament, la Sainte Cène est destinée au peuple de Dieu. C'est la commémoration perpétuelle de ce que Dieu a fait par la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour délivrer son peuple de ses péchés et lui offrir la vie éternelle. À chaque fois que nous partageons le pain et la coupe, nous commémorons ce que Dieu a fait pour son peuple. Prendre la Sainte Cène sans faire partie du peuple de Dieu, c'est comme recevoir l'allocation de rentrée scolaire alors qu'on n'a pas d'enfant. Vous voyez, c'est pas pour vous. C'est même un peu indigne de profiter d'une allocation qui ne vous est pas destinée. C'est même hypocrite de faire semblant, peut-être de mentir à la caisse d'allocation familiale pour recevoir cette allocation alors qu'on n'a pas d'enfant, alors que cette allocation ne nous est pas destinée. Et c'est de cela dont parle l'apôtre Paul dans un texte que nous lisons souvent avant la Sainte Cène, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas prendre la Sainte Cène indignement. La Sainte Cène, c'est pour le peuple de Dieu. Et donc, si vous êtes baptisé, assurez-vous, au moment de prendre la Sainte Cène, assurez-vous que cette démarche procède bien d'une foi personnelle que vous avez placée en Jésus. Si vous n'êtes pas baptisé, mais que vous aimeriez prendre la Sainte Cène parce que vous comprenez ce que ça représente et vous souhaitez entrer au bénéfice de la grâce de Dieu par le moyen de la foi, sachez, mes amis, que rien ne vous empêche d'être baptisé pour être intégré de façon formelle au peuple de Dieu. Il vous suffit, si vous le souhaitez, bien sûr, de venir m'en parler ou d'en parler à Jonathan ou d'en parler à Jonah après son retour. Premier point donc. Le peuple de Dieu est un peuple à part, car c'est un peuple que Dieu distingue objectivement du reste du monde. D'accord ? Cette distinction ne repose pas sur ce que nous avons dit ou fait, mais sur ce que Dieu a dit et fait. Ce n'est pas une discrimination basée sur la race, mais sur la grâce. Donc Dieu n'est pas un raciste, il est un graciste. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Ici, Moïse va s'attacher, à partir du début du chapitre 13, il va s'attacher particulièrement à un aspect de la fête de la Pâque. Le fait que, pendant cette fête, on ne devait pas manger de pain levé pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, on mangeait que du pain qui ne contenait pas de levain, et donc du pain tout plat, qui n'avait pas levé. Et on l'a dit la dernière fois, là aussi, la fête des pains sans levain était une commémoration de l'efficacité de la grâce de Dieu, parce que le moment venu, les Israélites étaient obligés de quitter l'Égypte. Ils ne pouvaient même pas choisir d'y rester, tellement les moyens que Dieu avait mis en œuvre étaient efficaces pour les faire sortir. Donc ils devaient être prêts à partir précipitamment, c'est pour ça qu'ils ne devaient pas mettre de levain dans leur pain, pour ne pas attendre que le pain lève, que la pâte lève. Vous voyez ? Commémoration de l'efficacité de la grâce de Dieu. Et c'est aussi ce que Moïse nous rappelle dans ce texte, en encadrant ses instructions concernant la fête des pains sans levain, d'un petit refrain qu'on retrouve au verset 3, qu'on retrouve au verset 9, et qu'on retrouvera encore à deux reprises au verset 14 et au verset 16. Un petit refrain qui parle de la puissance de la main de l'Éternel qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Vous voyez ce qu'il dit ? Car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir, verset 3. Puis verset 9, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Puis encore verset 14, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Et encore verset 16, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, c'est bien, on voit bien que Moïse attire notre attention sur l'efficacité de ce que Dieu a fait. Ce qui est intéressant et nouveau ici, c'est que Moïse attire aussi l'attention des lecteurs sur le pays vers lequel les Israélites se dirigent, verset 5. Le pays des Cananéens, des Hittites, etc., qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel. Moïse fait donc comprendre à ses lecteurs ici, il fait contempler à ses lecteurs, à la fois le départ, le point de départ, c'est-à-dire l'Égypte, la maison de servitude, et le point d'arrivée, qui est le pays de Canaan, le pays découlant de lait et de miel. Moïse veut que la fête des pains sans levain soit associée, voyez-vous, à cette formidable transition opérée puissamment par Dieu, de façon irrésistible par Dieu, par les moyens qu'il a mobilisés pour cela. On ressort de cette lecture en se disant, le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu délivre avec puissance. Voilà qui est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu délivre avec puissance depuis la maison de servitude qu'est l'Égypte, au pays découlant de lait et de miel, qui est le pays de Canaan. Imaginez que vous soyez en train de couler, de vous noyer dans la mer suite au naufrage de votre navire. Et vous essayez, tant bien que mal, de garder la tête hors de l'eau, mais vous êtes vraiment à bout de force. Mais tout d'un coup, au milieu de la tempête, un bateau apparaît et un homme se jette à l'eau pour vous secourir au péril de sa vie. On vous hisse sur le pont du bateau, on vous amène à l'hôpital et quelques mois plus tard, vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Ah bon ? Le cours normal de votre vie ? Après avoir été sauvé de la mort, grâce à l'héroïsme et l'abnégation d'une personne que vous ne connaissiez pas? Votre vie ne serait-elle pas désormais et pour toujours carrément conditionnée par cette expérience? Je pense que si. On ne peut pas parler de reprendre le cours normal de sa vie après avoir frôlé la mort et avoir été sauvé in extremis par quelqu'un au péril de sa vie. Et de la même façon, Dieu veut que la vie de son peuple soit conditionnée par cette délivrance que Dieu a opérée pour lui. Ce n'est pas seulement un peuple élu, comme on l'a vu au premier point, un peuple que Dieu distingue. Ce n'est pas seulement un peuple élu, c'est aussi un peuple sauvé. C'est le peuple de la grâce, c'est le peuple héritier de la promesse faite à Abraham et qui voit cette promesse se réaliser dans son histoire. Et à cette promesse de Dieu, ils doivent, comme je l'ai dit, répondre par la foi, en plaçant leur entière confiance en Dieu, en suivant ses prescriptions et ses ordonnances, en étant saints car lui est saint. Vous voyez, c'est de cette foi, de cette confiance en Dieu, en réponse à sa promesse, c'est de cette foi que doit découler l'obéissance du peuple. Et c'est pour cette raison que Moïse, au verset 9, associe le souvenir perpétuel de la grâce de Dieu à la loi de Dieu qui doit demeurer, dit-il, dans la bouche du croyant, c'est-à-dire au centre de ses préoccupations, au centre de ses pensées, proche de son cœur en fait. Moïse associe le souvenir perpétuel de la grâce irrésistible de Dieu, manifestée par la délivrance de l'Égypte, il associe cela à la loi de Dieu qui doit rester dans la bouche, dans notre cœur, dans nos préoccupations. Alors je vous avais dit que je reviendrai à la question du rapport entre la promesse de Dieu et la foi des croyants. Eh bien l'Église dans le Nouveau Testament, c'est la continuité du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et si nous sommes baptisés, nous faisons partie nous aussi du peuple de la grâce. Nous sommes les héritiers de la promesse faite à Abraham. Et nous pouvons constater dans l'histoire, en regardant en arrière dans l'histoire, la façon dont Dieu a réalisé cette promesse, non seulement en libérant les Israélites d'Égypte, mais encore de façon suprême en envoyant son Fils Jésus dans le monde. Mourir sur la croix en rançon pour son peuple et triompher du mal et de la mort pour son peuple. Nous voyons comment Dieu réalise sa promesse dans l'histoire. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Voilà la promesse dont l'Église est héritière aujourd'hui, dont le peuple de Dieu est héritier. La promesse dont le baptême et la Sainte Cène, notamment, sont des signes. Mais voyez-vous, ce n'est pas en fréquentant l'Église, ni en assistant au culte, ni en étant baptisé, ni en prenant la Sainte Cène, que l'on entre au bénéfice de cette promesse. C'est seulement en y répondant par la foi. C'est seulement en y répondant par la foi. On peut donc, voyez-vous, faire partie du peuple de Dieu ici-bas, sans jamais entrer au bénéfice de la grâce de Dieu. Il est possible de faire partie du peuple de Dieu ici-bas sans jamais entrer au bénéfice de la grâce de Dieu. C'était le cas pour un grand nombre d'Israélites dans l'Ancien Testament. Mais quand on répond à la promesse de Dieu par la foi, alors le culte ou les sacrements, par exemple, deviennent ce rappel entre nos yeux dont il est question, ce signe sur notre main dont il est question dans ce texte qui fait que la loi de Dieu va rester près de nous. D'où l'importance, si on a placé notre entière confiance en Jésus pour le pardon de nos péchés, d'où l'importance d'assister fidèlement au culte, d'où l'importance d'être baptisé, d'où l'importance de prendre la Sainte Cène. Parce qu'il constitue ce rappel entre nos yeux, ce fronteau entre nos yeux, qui fait que la loi de Dieu reste près de nous. Et c'est aussi pourquoi les vrais croyants ne devraient pas ressembler à des non-croyants. C'est impossible. Un vrai croyant ne peut pas ressembler à un non-croyant, comme l'aurait dit Calvin. Je ne suis pas sûr que ce soit Calvin, je n'ai pas retrouvé la référence exacte. Mais voici ce qu'il aurait dit. On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Autrement dit, elle s'accompagne toujours de ce qui en découle naturellement, à savoir l'obéissance à Dieu, la transformation que l'Esprit opère dans notre vie pour nous conformer à l'image de Jésus. On a donc vu que le peuple de Dieu était un peuple à part, premièrement parce que c'est un peuple que Dieu distingue, deuxièmement parce que c'est un peuple que Dieu délivre. Mais troisièmement, nous voyons dans la dernière partie de ce passage que c'est aussi un peuple que Dieu détient, c'est-à-dire qui est la propriété de Dieu. Et dans ces versets 11 à 16, on a des instructions ici que l'on découvre pour la première fois que Moïse n'avait pas encore donné jusque-là, une prescription perpétuelle qui est directement liée à la commémoration de la sortie d'Égypte. Et voici quelle est cette prescription. Une fois en terre promise, les Israélites devront d'une part offrir en sacrifice à Dieu tout premier-né de leur bétail. Et d'autre part, ils devront racheter tout premier-né de leurs enfants en offrant à Dieu un sacrifice de substitution. Donc d'une part sacrifier à Dieu, offrir en sacrifice tout premier-né de leur bétail, vous voyez, des vaches, des chameaux, etc. Et deuxièmement, racheter les premiers-nés de leurs enfants par le moyen d'un sacrifice de substitution. Et non seulement des enfants, mais il y a une petite précision intéressante, c'est qu'ils devaient aussi racheter les ânes. Et sans doute parce que les ânes étaient indispensables, étaient un peu plus rares, et ils étaient indispensables au travail, tout simplement. Et on ne mangeait pas les ânes. Par contre, on pouvait manger les agneaux, enfin les moutons, les chèvres, les vaches, etc. Alors la raison de cette prescription nous est donnée, c'est parce que c'est au prix de la mort de nombreux premiers-nés en Égypte que le peuple d'Israël a été libéré de la servitude. Les premiers-nés d'Israël, hommes et bêtes, en fait, auraient dû mourir eux aussi, n'est-ce pas? Lorsque le destructeur est passé en Égypte. Mais ils ont été épargnés par Dieu, par des moyens que lui-même a pourvus, et par conséquent, ils appartiennent à Dieu. Le fait que les premiers-nés appartiennent à Dieu, en fait, est emblématique du fait que le peuple entier appartient à Dieu. Et donc, cette prescription du rachat des premiers-nés a pour but de rappeler au peuple, de génération en génération, que Dieu s'est acquis ce peuple à un très grand prix, et par conséquent, qu'il lui appartient, que le peuple appartient à Dieu, que Dieu détient ce peuple. Alors, pour comprendre cette idée, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Imaginez un pays de la zone euro qui ferait faillite. Catastrophe. Heureusement, l'Europe vole à son secours et recapitalise le pays avec des fonds publics européens. Le pays en question est sauvé, mais grâce à de l'argent qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qui serait logique sinon que ce pays soit placé sous la tutelle de l'Europe qui l'a sauvé? Et on en parle de ça pour certains pays actuellement, n'est-ce pas? C'est la même chose quand un État recapitalise une banque ou une entreprise qui fait faillite. Quand l'État le fait avec des fonds publics, cette banque ou cette entreprise est ainsi, de fait, quelque part, nationalisée. Elle devient contrôlée par l'État parce que l'État y injecte des fonds publics. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose dans le texte. Un prix considérable a été payé pour la délivrance du peuple d'Israël, mais ce n'est pas Israël qui a payé. C'est Dieu qui a opéré cette délivrance et qui a mobilisé tous les moyens nécessaire pour le faire. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment dans ma dernière prédication, la mort des premiers-nés d'Égypte comme prix de la délivrance des Israélites, ça préfigure la mort du premier-né de Dieu comme prix de la délivrance ultime de tous les croyants. Le premier-né de Dieu, son Fils éternel, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Vous voyez le prix considérable que Dieu a payé pour sauver son peuple. Dieu sauve son peuple à un prix considérable, ce qui fait que ce peuple appartient inévitablement à Dieu. Dieu en a payé le prix de sa vie pour qu'il vive, et donc il lui est éternel, le peuple est éternellement redevable à Dieu de sa vie, de son salut. Dieu détient son peuple. Et son peuple doit vivre en conséquence, comme le dit l'apôtre Paul dans un texte qu'on a lu tout à l'heure. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez donc vu ce qui se passe dans ce texte, je l'espère. Dieu communique à son peuple des instructions qui concernent la future commémoration de la sortie d'Égypte. Et ces différentes prescriptions qu'on a lues dans ce texte sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles rappellent au peuple que Dieu le distingue, le délivre et le détient. Et tout cela pour souligner cette idée principale que j'ai mentionnée au départ et qui nous concerne aujourd'hui, qui est la suivante. Dieu s'est fait un peuple à part, constitué d'hommes, de femmes et d'enfants qui doivent se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux et vivre en conséquence. L'humanité aujourd'hui est effectivement divisée en deux groupes. Et il n'y a pas de division plus radicale que celle-là. D'une part le peuple de Dieu, d'autre part le peuple qui n'est pas de Dieu. Si vous vous dites croyant aujourd'hui, mes amis, vous devez vivre en conséquence. Si vous vous dites croyant, vous devez vivre en conséquence. Le monde doit voir que Dieu vous distingue, vous délivre et vous détient. Si vous ne vous dites pas croyant, sachez que vous pouvez faire partie du peuple de Dieu si vous le souhaitez. Vous pouvez entrer au bénéfice de sa grâce. Il suffit de croire à ses promesses et de placer votre entière confiance en lui. Amen.